Bonjour à tous. Donc, je suis le frère de Philippe, au cas où vous ne me connaîtriez pas. Ah oui, parce que Philippe aussi, c'est votre frère. Pierre-Yves, c'est le petit. Le petit. Alors, j'avais une commande de Pierre-Yves qui était de parler d'un sujet absolument lié à ce qui a occupé l'Église depuis bien des jours. L'offrande faite à Jérusalem par le Fils de Dieu, le salut. Et pourtant, je vais vous amener, mais soyez convaincus que je respecte profondément ce désir, mais je vais vous amener dans l'Ancien Testament, au livre de Josué. Je ne sais pas si j'arriverai à faire comprendre aux enfants, mais au livre de Josué, au chapitre 3. Livre de Josué, chapitre 3. Alors, au chapitre 3 du livre de Josué, on est face au pays promis. Mais il y a un obstacle. Un obstacle absolument infranchissable à ce moment-là, c'est le Jourdain. Chapitre 3 de Josué. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et ils partirent de Sittim et vinrent jusqu'au Jourdain, lui et tous les fils d'Israël. Et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Donc, ils sont au bord du, pas très loin du fleuve, du Jourdain, et ils ont passé la dernière nuit, et ils vont traverser. Verset 2, il arriva au bout de 3 jours, que les officiers passèrent au milieu du camp, et ils commandèrent au peuple, disant, « Aussitôt que vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites qui la portent, vous partirez de là où vous êtes, vous marcherez après elle seulement. Il y aura entre vous et elle une distance de la mesure d'environ 2000 coudées, c'est presque 1 kilomètre. N'en approchez pas de là, afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez pas passé par ce chemin auparavant. » Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Verset 8, l'Éternel dit à Josué, commande aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, disant, lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et verset 14, j'essaye d'abréger. Et il arriva que lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Et comme ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau, or, le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Elles s'élevèrent en un monceau très loin près d'Adam, ville qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient à la mer de la plaine, la mer Salée, s'écoulèrent complètement. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. Et tout Israël passa à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Chapitre 4. Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel parla à Josué disant, « Prenez d'entre le peuple 12 hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur disant, « Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds des sacrificateurs, 12 pierres, et vous les transporterez avec vous et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Et Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu. Et Josué leur dit : « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain. Levez chacun de vous une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. » Bon, c'est un peu étrange. Mais il y a un enseignement très utile dans ces versets. Vous savez, on lit Ésaïe 53, on y reviendra d'ailleurs à la fin. Et on connaît ce chemin de celui qu'on a amené, comme un agneau à la boucherie. Les termes sont tous à peser, conduit comme un agneau à la boucherie. Cela parle de ce temps où le Seigneur s'est en quelque sorte à Gethsémané livré. On pouvait le prendre, on lui attachait les mains, on a fait tout ce qu'ils ont voulu, est-il écrit. Mais en quelque sorte avec Josué et avec l'évangile de Luc qui a été lu le jeudi, on part en amont pour suivre un chemin qui est plus long que celui-là. Ce qui est important dans ce chapitre 3 et ce chapitre 4 de Josué, quand on les lit, ce n'est pas le peuple qui traverse le Jourdain. N'importe quel cinéaste aurait fait un film montrant le peuple traversant le Jourdain. Un peintre aurait peint ça. Ce qui est important, et la parole nous le dit, c'est de voir l'arche, de suivre l'arche qui va entrer dans le Jourdain. Quand il a fallu se faire sortir le peuple d'Égypte, qu'il y a eu cet obstacle infranchissable qui était la mer Rouge, un miracle a eu lieu. Et cela parle de la puissance. Mais ici, l'Éternel veut qu'on voit. Il veut que son peuple voit quelque chose d'extraordinaire qu'il n'avait pas encore connu, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il y a une disposition particulière. Voyez-vous, le peuple, il faut qu'il soit à 1 kilomètre environ. C'est une limite pour voir suffisamment bien. Donc tout le monde allait pouvoir voir ce qui se passait au bord du Jourdain. Et il fallait que chacun voie. Pendant 40 ans dans le désert, lorsqu'ils se déplaçaient, le peuple, lorsqu'ils se déplaçaient, ils étaient un peu en file indienne, avec au milieu l'arche. La tribu de Juda en partait en premier, puis les autres suivaient, 6 autres, puis 5 autres, puis après l'arche, puis encore 6 autres. Là, il n'y a pas du tout d'ordre. Il faut que chacun voie. Comme il faut que chacun voie la croix de Golgotha. Il faut que chacun voie. Et ils vont voir l'arche. Alors, il ne faut pas idolâtrer l'arche. Et je pense que le peuple juif n'idolâtrait pas l'arche, même s'il pouvait y avoir des fois des défaillances à ce sujet. Mais on voit clairement dans la parole que l'arche, pour eux, est inséparable de la présence de Dieu. On le voit dans Samuel, on le voit de partout. L'arche, c'est la présence de Dieu. Et ils vont voir l'arche, la présence de Dieu, qui va entrer dans le fleuve. C'est quelque chose que rien auparavant n'avait pu dire. Montrer que celui qui va nous sauver, le Fils de Dieu, longtemps à l'avance, bien sûr, mais nous montrer qu'il va entrer pour nous dans la mort, pour nous ouvrir le chemin. Et c'est cela qu'il faut qu'on voie. Il faut qu'on suive ce chemin. Et jeudi, on a commencé ce chemin au début de Luc 22. Et il y a un premier détail qui frappe en lisant ces versets. Le Seigneur est, on va dire, tout entier mobilisé par ce qui est devant lui. Et pourtant, il a toute la charge morale de ceux qui sont autour de lui. Ils se sont toujours attendus à lui, ces 12 disciples. Et ils vont encore s'attendre à lui. Il faut qu'il les porte jusqu'au bout. Ça commence tout de suite. Maître, où mangerons-nous la Pâque? Il faut qu'il s'en occupe. Il faut qu'il s'en occupe quand une dispute éclate au milieu d'eux, qui sera le plus grand. Il faut qu'il s'en occupe tout le temps. Alors que on dirait, mais laissez le Seigneur tranquille. Il ne peut pas. Son amour, toujours actif, jusqu'au bout, pour porter les siens. Il se dispute, il est là, et il amène magistralement la paix. Il faut qu'il s'occupe de Judas. Il faut qu'il s'occupe de Judas et il n'y a aucune parole chargée de haine ou de rien. Tout ce qui est, le Seigneur, j'ai eu tort de dire le mot haine, toutes ces paroles, c'est pour toucher Judas. Rien n'y fera. Il ira son chemin jusqu'au bout, mais vraiment le Seigneur aura tout fait pour lui. Il y a même un détail qui frappe. Il n'est pas dans Luc, il est dans Jean. Et ce détail nous permet de bien comprendre la chronologie des choses. Judas est libre de son maître. Et il trouve une bonne occasion pour le livrer. Ça veut dire que quand il va aller à Gethsémané, Judas, à la tête d'une troupe, il sait très bien que le Jésus va être là. Parce que Jean nous dit qu'ils avaient l'habitude d'aller là. Le Seigneur n'avait pas un lieu où poser sa tête. C'est vrai. Et il avait l'habitude d'aller à Gethsémané, dans le jardin, pour passer la nuit. Ça aurait été simple pour lui d'aller à un autre endroit. C'est ce que nous aurions fait. Lui, il y est allé quand même. Il a porté la charge morale de Judas. Il a porté la charge morale d'un Pierre. D'un Pierre qui dans son zèle, dans tout son amour pour le Seigneur, dit « Mais j'irai avec toi jusqu'à la mort. » Et le Seigneur le prévient en Luc, on l'a lu. Mais il ne fait pas que le prévenir. Dans la maison du sacrificateur, là où Pierre va le trahir, le renier. Pierre va le renier avec imprécation, avec injure. Mais Pierre, il est paniqué. Il a peur. Il est paniqué. Alors si le Seigneur lui parle, il va le dénoncer. Si le Seigneur fait un geste vers lui, il va le dénoncer. Que peut faire le Seigneur pour aider Pierre? Il le regarde. Pierre, il a compris ce regard. Mais imaginons ce regard. Voyez comme le Seigneur a porté tous les siens jusqu'au bout. Il y a un autre détail. Alors, quand on voit l'arche qui va, voyez-vous, ça nous permet de voir Luc, par exemple l'évangile de Luc, ce récit qui a été lu, depuis bien en amont de Golgotha. On le voit suivre ce chemin. Il y a un deuxième élément sur lequel je voulais attirer l'attention. C'est le temps, la durée. Je dis, il y a eu un temps de chant, de musique, de recueillement. Et est-ce que la musique, c'était un temps trop long? Est-ce que c'était pas assez long? Est-ce que... On voit bien qu'il y avait des ressentis différents sur ce temps de musique, qui était peut-être d'une dizaine de minutes, je ne sais pas. Pardon?
9 minutes.
Eh bien, ça pouvait paraître long, 9 minutes. N'est-ce pas que ça pouvait paraître long? Parce que nous sommes comme ça. Et Gethsémané, combien ça dure? S'il était possible que cette coupe passe loin de moi. C'est vite dit, hein? Quelques secondes, c'est pas 9 minutes. Quelques secondes. Et pourtant, les disciples ont le temps de s'endormir. Et quand ils s'endorment, le Seigneur revient vers eux et leur dit, « Simon, tu n'as pu veiller une heure, une heure. » On n'y fait pas attention. Moi, il y a quelques années, je me souviens de ce frère qui m'a dit, « Vous avez vu combien ça dure, Gethsémané ?» Je n'avais jamais réalisé. Mais Gethsémané, mais c'est long. Ce temps où Matthieu, Marc nous dit que son âme était saisie d'angoisse. Ceux qui connaissent les angoisses, c'est pas mon cas, je le dis honnêtement. Mais ceux qui connaissent les angoisses savent combien c'est dur. Des heures. Des heures. Gethsémané. C'est long. C'est long. Après, on prend le Seigneur, on l'amène dans le palais du souverain sacrificateur. Et je dis, j'ai encore relevé ce détail que je connaissais pas. Pierre renie son maître. Une fois, deux fois, et Luc dit que une heure après, il le renie une dernière fois. Mais il y a du temps. Et c'est pas pour meubler nos intelligences, mais c'est pour que vraiment notre cœur ressente ce que le Seigneur a traversé. Ça a été long. Rien ne m'a été épargné. Et puis, il y a deux autres aspects de notre lecture que je voulais souligner. L'arche, elle est entrée dans l'eau. Mais pour sauver, pour épargner ceux qui portaient l'arche, l'eau s'est arrêtée. Pour lui, en réalité, à la croix, rien ne s'est arrêté. Et il faut qu'on voit à travers ce symbole de l'arche entrant, elle va, il est bien précisé, jusqu'au milieu. Il fallait de la foi. Il n'en a pas manqué, Seigneur. Il est le chef de la foi. Il n'a pas manqué de foi pour aller jusqu'au bout. Mais l'arche, il fallait qu'elle entre au milieu. Et alors, à ce moment-là, il y a des expressions des psaumes. Je suis entré dans une boue profonde où il n'y a pas où prendre pied. Quand j'étais enfant, je me souviens de cette lecture d'un homme qui racontait la terreur absolue d'un homme qui était tombé dans les sables mouvants, dans cette boue, où il n'y a pas où prendre pied. Je suis enfoncé dans une boue profonde.
Il n'y a pas où prendre pied, c'est-à-dire, il n'y a rien pour s'accrocher. Dans cette boue de nos péchés, de nos actes, est-ce qu'il y avait quelque chose de valeureux, de valable? Non. Je suis enfoncé dans une boue profonde où il n'y a pas où prendre pied. Et vous avez vu que là où était l'arche, il y a les 12 pierres représentant la totalité du peuple. Là où il est entré, c'est là où nous étions. Et il nous sort de là. Il nous sort de là. Et les 12 pierres dont Josué sont transportées vont être mises en pleine lumière, elles qui étaient dans la boue profonde. Elles vont être mises dans la pleine lumière, sur le pays, dans le pays, du bon côté du rivage. On a chanté le cantique 110, voilà, vêtues de blanc. Ces pierres, elles représentent ça déjà. Elles nous disent ça déjà. Alors, pour résumer la fin, j'avais pensé à un verset d'Ésaïe 53. Imaginez, c'est difficile qu'on ne connaisse pas Ésaïe 53. Si on ne connaissait pas Ésaïe 53, ça veut dire on va deviner de qui il est question. Ésaïe 53, le dernier verset. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui assignerai ou je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, qu'il a porté le péché de plusieurs et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Quand on connaît l'Évangile, celui qui a intercédé pour les transgresseurs, celui qui a porté les péchés de plusieurs, de nous tous, nous savons sans aucune hésitation que c'est Jésus. Et donc nous n'avons aucune hésitation quant à qui est cette personne dont parle Ésaïe. Et il est dit... C'est pourquoi, parce qu'il a accompli cette œuvre du salut, c'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort. Il y a quelque chose qui interpelle. Qui est digne de l'accompagner? Qui est digne d'accompagner celui dont cette arche nous a parlé, celui dont nous avons parlé en lisant l'Évangile de Luc, qui est digne de l'accompagner. Or, Ésaïe le dit clairement, il ne sera pas seul. Et même, il sera avec des gens de qualité, des personnes qui sont dignes de lui. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse être, ces personnes dont il est question, c'est nous. C'est nous. Il nous a rendus dignes. C'était sa pensée, c'était sa volonté. C'était ce que son cœur désirait. C'est nous qui sommes ceux que Ésaïe appelle, l'Éternel plutôt, appelle les forts, les grands. C'est absolument incroyable. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. Et vous voyez que dans Josué, ces pierres qui sont prises du milieu de la boue et qui sont exposées dans la pleine lumière, dans le pays promis, elles parlent. C'est très faible peut-être, mais elles parlent à l'avance de ce qui sera notre part par pure grâce. Oui, tout cela nous fait comprendre un peu l'amour infini dont nous sommes aimés. Un amour que rien n'a fatigué. Un amour que rien n'a, oui, n'a repoussé. Il a tout porté. Que le Seigneur soit béni.